tous les vendredis, le Rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Internet et ses réseaux sociaux ont fait sauter tous les codes tacites des journalistes qui volontairement taisaient certaines informations touchant la vie privée et des personnalités publiques. Mais désormais, leur intimité est jetée en pâture aux internautes et cela contraint ces personnalités à un devoir de transparence. Notre parasha de Teruma, il est justement rappelé cette obligation d'harmoniser le paraître et l'être, l'extérieur et l'intérieur de l'homme, Toro Kevaro en hébreu. En effet, il est enseigné au sujet de l'arche sacrée, le Rona Kodesh, qui contenait les tables de la loi et qui était posée dans le Saint des Saints, que cette arche était composée de trois boîtes gigognes, une petite boîte en or placée dans une plus grande boîte en bois, elle-même placée dans une boîte encore plus grande en or. Ainsi, l'extérieur comme l'intérieur de l'arche sacrée était en or. Et Rava en déduit qu'à l'instar de l'arche de la Torah, tout sage d'Israël dont l'intériorité n'est pas semblable à son apparence, Toro Kevaro, n'est pas un véritable sage, ce que confirme un verset tiré de Job. Qu'adviendra-t-il de cet être méprisable qui boit l'iniquité comme l'eau, ces dernières symbolisant la Torah comme souvent. Un sage contemporain, le Rav Goldwasser, fait remarquer que l'arche sacrée n'était pas entièrement en or, car la boîte du milieu était en bois. Et ce, premièrement, pour des raisons pratiques, car l'or est tendre, très malléable et non consistant, et l'or de l'arche sacrée ne pouvait tenir que grâce à la partie en bois de l'arche. Mais deuxièmement, rajoute le Rav, cette boîte en bois vient surtout rappeler au sage que même si celui-ci se doit de projeter à l'intérieur comme à l'extérieur l'image de la perfection aussi belle que l'or, le sage doit rester modeste et simple, tel le bois. Et nous trouvons l'application pratique de cette obligation de transparence dans l'histoire racontée dans le Talmud. Peu après la destruction du temple, du temps où Rabban Gamliel était le prince d'Israël, un gardien était posté à l'entrée du Beit HaMidrash, de la salle d'études de Rabban Gamliel, et empêchait tous les élèves dont le comportement imprévu n'était pas à la hauteur de leur sagesse de rentrer dans la salle d'études. Et un jour, il arriva que Rabban Gamliel fut destitué par les sages d'Israël qui le trouvaient trop autoritaire. Et les sages nommèrent Rabbi Elazar ben Azaria à sa place, comme nous le racontons le soir de Pessah. Et la première décision de Rabbi Elazar ben Azaria fut de renvoyer le gardien de la salle d'études et de permettre à tous ceux qui le désiraient de venir apprendre. Et en ce jour, nombreux furent les élèves qui affluèrent et on rajouta des centaines de bancs pour accueillir ce flot de nouveaux disciples. Et ce jour-là fut un jour de révélation digne du Mont Sinaï, puisque l'important traité de Hilouyot a été rédigé entièrement en ce jour d'ouverture des portes du Beit HaMidrash. Et il convient de comprendre la motivation de Rabbi Elazar ben Azaria, qui apparemment contredit notre principe de transparence et s'oppose de plus à une autre règle du Talmud, selon laquelle il est interdit d'enseigner à un élève manquant de crainte du ciel qui risque de tourner la Torah en dérision. Et le Rashbetz explique qu'il est défendu de livrer la Torah à un élève connu notoirement pour son manque de sérieux, mais sinon il n'est pas nécessaire de chercher à inspecter, à détecter les failles d'un élève apparemment correct. Car même si celui-ci a secrètement une autre vie indigne de la Torah, le maître peut espérer que son enseignement finira par pénétrer et convaincre le disciple de changer. Cet espoir que ne partageait pas Rabban Gamliel et qui empêchait de tels élèves de rentrer à la salle d'études. Et l'Éternel donna raison à Rabbi Elazar ben Azaria. Mais revenons un instant sur le gardien de la salle d'études. Sur quels critères jugeait-il les élèves indignes? Car leur physionomie était identique. Le Rav Sperber, contemporain roumain, répond simplement que le gardien interrogeait les élèves avant de les laisser entrer sur leur conduite dans leur vie privée, ou bien que celui-ci suivait les consignes données par Rabban Gamliel, doté lui de l'esprit sacré, lui permettant de reconnaître un élève indigne. Mais le Rav Sperber ouvre une troisième voie pour comprendre les critères du gardien. En fait, celui-ci repoussait systématiquement tous les élèves, ou bien leur demander de payer afin d'écouter les cours dispensés à la salle d'études. Et cela suffisait à décourager les élèves dont l'intériorité n'était pas à la hauteur de leur apparence, qui à la première difficulté venue renoncent à l'étude de la Torah, au contraire de ces élèves pour qui leur vie c'est la Torah est leur vie, et que rien au monde ne les arrêtera sur le chemin de l'étude. Et le Hanmour de Sedegora va même jusqu'à dire que le gardien avait fixé un cadenas presque impossible à ouvrir pour tester l'attachement des élèves à la Torah. Et le Rav Schenkel apporte une preuve fantastique de la véracité de ses explications. car le Talmud précise que le jour où le gardien a été chassé, on a dû rajouter des centaines de bancs à la salle d'études. Pourquoi raisonner en termes de bancs plutôt qu'insister sur le nombre supplémentaire d'élèves? Et le Rav Schenkel a répondu, car les premiers élèves, les meilleurs, étudiaient la Torah debout, uniquement par respect pour la Torah, tandis que les nouveaux élèves, manquant de conviction, ont éprouvé le besoin de s'asseoir pour étudier. On a dû apporter des bancs pour eux. Le plus extraordinaire dans toute cette histoire, c'est quand même Rabban Gamliel, le prince destitué, qui même le jour de sa destitution, ce jour où il aurait dû rester chez lui, par gêne et par honte, est venu comme chaque jour étudier la Torah à la salle d'études, comme si rien s'était passé. Et c'est ça aussi la dimension de Toro Kevaro, la perfection. Shabbat Shalom à vous tous. Kulam.